Radio Okapi. Okapi.
Les titres de cette édition. Nord Kivu, seuls 27% des déplacés dans des anciens camps auront une assistance alimentaire. Le gouvernement provincial et les acteurs humanitaires disent de ne plus disposer des moyens suffisants pour continuer à fournir de l'aide. Et puis cet appel du président du Conseil supérieur de la magistrature aux magistrats civils et militaires à se remettre en question et à examiner leur serment. C'était hier à Kinshasa à l'ouverture de la session ordinaire. Dans ce journal, Michel Kifinda nous amène à l'hôpital du Saint-Centenaire, ici à Kinshasa, où on observe un fort engouement des malades et des visiteurs. Trois services y sont opérationnels pour le moment. Bonjour. Au Nord Kivu, le gouvernement provincial et les acteurs humanitaires ne disposent plus des moyens suffisants pour continuer à fournir l'assistance alimentaire généralisée dans plus de 30 anciens sites des déplacés, annonce hier lundi à Goma du vice-gouverneur du Nord Kivu, Maître Feller Lutaichirwa. C'était dans un café de presse animé par le vice-gouverneur en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Ainsi, seuls les ménages très vulnérables des déplacés seront assistés. Il s'agit exactement de 71 300 personnes, soit 27% des personnes qui vivent actuellement dans des anciens camps des déplacés. Ces ménages très vulnérables ont été identifiés au terme d'une étude réalisée en février dernier. La chargée du programme au bureau du PAM, Sabine Bauge, explique au micro de Rosalie Zawadi.
Le PAM a assisté ces 35 sites depuis plus de 5 ans en assistance alimentaire généralisée et il était important de connaître vraiment la situation de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire de ces déplacés puisque normalement l'assistance alimentaire généralisée est donnée pour sauver des vies. Donc c'est ce qu'on fait dans les 3 premiers mois du déplacement. Ensuite, normalement les ménages trouvent des moyens de se prendre en charge. Donc là, étant donné que cette assistance a été fournie pendant 5 ans, il était important de voir quels sont les plus vulnérables que nous devons continuer à assister, car dans notre mandat, il est important qu'on assiste en priorité les nouveaux déplacés. Donc, en plus de l'assistance qui est fournie dans ces 35 sites, le PAM doit se focaliser sur les nouveaux déplacés et donc une grande partie de nos ressources vont aller à ces nouveaux déplacés.
Le vice-gouverneur promet toutefois que des discussions vont se poursuivre avec les humanitaires afin de voir comment mieux assister les anciens déplacés sans passer par l'aide alimentaire d'urgence. 109 corps repêchés, 101 non encore retrouvés et 41 rescapés. Ce nouveau bilan est donné par le ministre de l'Intérieur. Selon Richard Mouillège, qui répondait hier lundi à une question d'actualité du sénateur Ernest Amouli, ces réfugiés congolais sont partis d'un port de pêche ougandais pour un autre dans des conditions déplorables. Surcharge, embarcation vétuste et manque de qualification du personnel navigant. Le gouvernement regrette ce drame et prend des dispositions pour y mettre un terme, a indiqué le ministre Mouillège. Mimi Ngumba Mulongo.
Ils étaient pourtant candidats au retour volontaire en RDC. Ces réfugiés congolais qui ont malheureusement décidé d'organiser seuls leur rapatriement, a déploré Richard Mouillège.
Ils ont été impatients. Ils voulaient retrouver leur dignité et ils ne se sont pas malheureusement soumis aux règles dans ce genre de mouvement. Ils ont donc échappé au contrôle et du ACR et des officiels ougandais. Malheureusement, le pire est arrivé.
Il faut à tout prix éviter que ce genre d'accident se reproduise dans l'avenir. De la tenue prochaine de la tripartite RDC-HCR-Ouganda pour se pencher sur la question. Objectif, arrêter des mesures qui s'imposent. Mais avant cela, la sensibilisation est en cours sur place en Ouganda.
Nous avons parlé au camp des réfugiés de Kiangwali, d'où sont partis ces naufragés, pour essayer de les sensibiliser et qu'un pareil aventure ne puisse se reproduire. Et demander aux officiels ougandais de bien encadrer l'environnement du camp.
Quant au sort des réfugiés congolais qui traînent encore dans ce pays étranger, Richard Mouillet affirme que le gouvernement est à pied d'œuvre pour leur retour.
On ne peut pas dire qu'après la tripartite, la semaine qui suit, les réfugiés vont rentrer. Mais pour éviter justement que l'impatience se prolonge, le gouvernement prend des dispositions pour donner sa contribution de manière à rapprocher les calendriers de rapatriement.
Toujours selon le ministre, le gouvernement s'est occupé de la prise en charge sanitaire et alimentaire des rescapés.
Tout magistrat civil et militaire est assujetti aux mêmes objectifs de loyauté, d'impartialité et d'objectivité dans l'exercice de ses fonctions. C'est le ton donné par le président du Conseil supérieur de la magistrature à l'ouverture hier lundi de la session ordinaire de son Assemblée générale. Sous un thème interpellateur qui éveille la conscience du magistrat, le Conseil a invité ses membres à se remettre en question durant cette session en examinant leur serment et en tirant les conséquences. Mais les magistrats à leur tour soulèvent la nébuleuse question des conditions de travail et de vie difficiles pour mieux exercer leurs fonctions. C'est un reportage de Jeff Ngoy.
La session s'ouvre sans un ordre du jour précis. Il faut attendre que la plénière l'adopte. Mais selon le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les matières à traiter durant cette session se rapportent à la gestion de la carrière du magistrat, de son recrutement à sa retraite, ses conditions salariales et sociales. Revenant sur le serment du magistrat, Jean Oboulou pense qu'il y a des droits et devoirs à observer.
On ne peut pas exercer une carrière et ne rester que dans les obligations, dans les devoirs. Il y a aussi des droits, effectivement, tels que le salaire, tels que l'assistance sociale. Nous nous réunissons chaque année pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qui pourra être fait.
Le syndicat autonome des magistrats du Congo s'est dit conscient de la charge que chaque magistrat porte afin de respecter le serment de loyauté. Cependant, le vice-président de ce syndicat, Edmond Issofa, évoque les failles qui entachent cette session.
L'acte convoquant les présentes assises renseigne qu'il s'agit d'une assemblée ordinaire. Or, de par la loi, une assemblée ordinaire, c'est 30 jours. Mais nous avons constaté que les travaux vont du 7 au 19, ce qui est anormal. Qu'est-ce qui fait que les différentes résolutions ne sont pas appliquées à ces jours?
Le Conseil s'engage ainsi à faire tourner les chambres disciplinaires au sein de la magistrature pour sanctionner tout contrevenant de la loi.
Parlons à présent de l'hôpital du Saint-Quentin de Kinshasa qui a ouvert ses portes aux malades depuis samedi dernier. Plus d'une centaine des malades ont été reçus hier lundi pour la consultation générale. Mais plusieurs autres dizaines des cas qui se sont présentés ont été renvoyés car beaucoup de services ne sont pas encore opérationnels. Seuls l'orthopédie et les urgences sont à ce jour fonctionnels, ont affirmé une réceptionniste et un médecin congolais qui s'occupe du tri des malades aux urgences. Reportage Michel Kifinangoy.
C'est un fort engouement tant des malades que des touristes qui s'est observé toute la journée de ce lundi à l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. De la porte d'entrée au laboratoire en passant par la réception, la caisse et le cabinet médical, aucune restriction n'a été observée. Le personnel, en grande partie les Indiens, ne connaissent pas les langues parlées en RDC. Ils ne parlent que l'anglais. Faute d'interprète, une difficulté de communication s'observe entre les malades et le personnel soignant. Les quelques rares Congolais qui y travaillent ont été positionnés aux urgences. Témoignage d'un malade.
Les Indiens ne savent ni français. En tout cas, nous avons un sérieux problème. En plus, il n'y a que peut-être 3 services qui travaillent.
Côté tarification, à part les consultations qui coûtent 25$, une confusion réside dans les cas particuliers, par exemple au niveau des prix des examens et autres soins.
On est un peu désolé parce que pour la facture des examens, ce n'est pas la somme qui a été demandée. Donc il y a un peu une contradiction. Alors là, je suis vraiment surprise, je ne comprends rien.
Il faut noter qu'à ces jours, l'hôpital du Cinquantenaire n'est pas encore en mesure de prendre en charge tous les cas qui se présentent. En dehors des consultations générales, des urgences et de l'orthopédie, tous les autres cas sont jusque-là renvoyés par le personnel congolais chargé du tri des cas.
Santé encore en province orientale cette fois. Plus de 80% des femmes qui accouchent à Isiro sont des mineurs, annonce faite hier lundi par le coordonnateur provincial de l'ONG S'échange à l'ouverture d'un atelier de 6 jours organisé par le ministère provincial de la Santé publique, des Affaires sociales, genre, famille et enfants avec l'appui de l'USAID. Ceci rentre dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre associées au VIH-Sida. Selon Eustache Dounia, cette situation est une conséquence des violences sexuelles en augmentation dans la zone de santé d'Issiro. Le coordonnateur provincial de S'échange présente la situation des violences sexuelles dans cette cité au micro de Richard Tindre de la Radio Nava.
L'état des lieux a révélé l'existence et la persistance des cas de violences sexuelles ici à Isiro. Le site de Neissou possède la prévalence la plus élevée, qui va déjà au-delà de 7%. On dirait même que c'est la capitale du VIH. Il y a également la présence des coutumes rétrogrades. Vous allez trouver dans une maternité, sur 100 accouchements, plus de 80%, ce sont des accouchements des filles mineures. Donc, et ça, c'est un problème, parce que les grossesses précoces et les mariages précoces constitue une des formes de violence sexuelle, mais que les gens ne maîtrisent pas très bien. On a également trouvé ici un phénomène payotte où, faute de moyens conséquents sur le plan économique, les familles assistent passivement à l'exploitation sexuelle de leurs enfants-filles. La loi sur les violences sexuelles réprime ce genre de pratiques.
Rendons-nous au Katanga pour terminer. Plus de 3000 éléments sortis du centre d'instruction de Moura le week-end dernier se sont engagés à changer l'image du soldat. C'est notamment en rapport avec les accusations portant sur les violations des droits de l'homme et les violences sexuelles. Selon l'auditeur de garnison militaire de Likasi et un des instructeurs, ces militaires ignoraient tout sur le sujet. On écoute le major Lili Muzila au micro de Noé Kabena.
Ils ont encore plus appris sur ce qui concerne les violences sexuelles. Surtout là où ils vont aller, ils peuvent se retrouver dans des zones opérationnelles où les violences sexuelles peuvent aussi devenir des crimes graves ou même des crimes contre l'humanité ou même une arme de destruction massive. Ce que nous avons compris, c'est qu'ils étaient ignorants sur toute la ligne. Mais maintenant que nous leur apprenons réellement ce qui se passe en ce qui concerne les violences sexuelles, je vous dis sincèrement, innocemment, ils font les victimes. Mais je pense qu'ils ont compris, parce que même dans leur langage, beaucoup de choses ont changé.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Lubumbashi, dans le Katanga.
Okapi. Okapi. Adio, Okapi.